Atlantic Caution de Atlantic Assurance, la garantie financière pour les marchés publics et privés, vous propose appel sur l'actualité.
Atlantic Assurance, en toute confiance.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, merci de votre confiance, vous nous appelez, vous vous exprimez et profitez-en, nous sommes vendredi. Vous commentez l'actualité de votre choix, dans 30 minutes ce sera la Libre Antenne. Et parmi les sujets qui vous font réagir, la condamnation de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme, l'annonce cette semaine du référendum constitutionnel en Centrafrique, la situation sécuritaire dans le sud du Tchad, quelques réactions sur la pollution plastique, c'est un sujet qui fait débat et qui réunit près de 200 pays cette semaine à Paris pour essayer de trouver un accord contraignant pour mettre fin à cette pollution. Quelques-uns d'entre vous nous appellent de Mauritanie après la mort d'un jeune d'origine négro-africaine quelques heures après avoir été arrêté par la police. Voilà donc quelques-uns des sujets qui nous arrivent au standard sur les réseaux sociaux. Vous aussi, vous souhaitez commenter l'actualité, soyez les bienvenus. 33 9 693 693 70. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction de RFI pour mieux comprendre tous les sujets que vous entendez dans nos différentes éditions. Et on commence avec Honoré. Soyez le bienvenu, bonjour.
Bonjour, Juan.
À Lubumbashi, en République démocratique du Congo, et vous avez des questions sur la situation sécuritaire dans l'est de votre pays.
Absolument, Juan. Ma première préoccupation, Juan, c'est de savoir que j'ai appris qu'il est assez avait prolongé son mandat dans l'est de la RDC, alors qu'il devait quitter la zone en jeu à cause des tensions avec les autorités congolaises. Mmh. Et comment expliquer la prolongation de ces mandats et qu'est-ce qui a convaincu les autorités congolaises à donner encore confiance à l'IAC?
Ouais, c'est vrai que le président Tshisekedi, on se souvient, il avait clairement évoqué un départ de la force régionale de l'EAC. Si le mandat n'est pas rempli, avait-il dit, la décision sera prise de raccompagner et de remercier ses contingents. Pauline Azidi, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre, journaliste au service Afrique de RFI. Comment expliquer la prolongation du mandat de cette force régionale?
Alors, le mandat de la force, il n'avait pas été reconduit formellement après son expiration le 8 mars. Le sommet de l'EAC qui s'est tenu à Bujumbura, a donc prolongé ce mandat de 6 mois à compter du 8 mars. C'est un moindre mal, explique une source proche du gouvernement congolais, car l'EAC, toujours selon cette source, voulait 6 mois supplémentaires à partir de juin, hein, donc jusqu'en décembre. Ce compromis, plusieurs spécialistes de la zone l'expliquent par l'isolement régional de la RDC sur cette question de la force est-africaine. Ils n'ont pas vraiment eu le choix, estime un chercheur, qui ajoute que les autres pays de l'EAC ne soutenaient pas une sortie rapide de la force, d'autant plus que son déploiement complet est très récent. Hein. Ça fait à peine 3 mois que toutes les contingents sont arrivés. Le message envoyé est donc, nous venons d'arriver, laissez-nous faire le travail.
Oui, un travail qui sera quand même audité. Hein. C'est aussi une des annonces de ce sommet.
Exactement, c'est la mise en place d'un mécanisme d'évaluation. Alors, mise en place de ce mécanisme d'ici le 15 juin, mais il aura après 90 jours pour rendre ses conclusions, donc finalement jusqu'à la fin du mandat de la force en septembre. C'était une demande de la RDC qui a donc été acceptée. Un conseiller de la présidence explique quand même que ces 3 mois, c'est un sursis. Cette force, elle va devoir s'activer réellement, donner des résultats pour lesquels elle avait été invitée. Ce résultat, c'est l'application du mandat offensif de cette force d'une part, c'est-à-dire obliger la rébellion du M23 à un retrait total des zones occupées. Alors actuellement sur le terrain, on est dans une sorte de statu quo. Les rebelles se sont retirés de plusieurs localités, mais pas de la totalité. Et les autorités congolaises ont même souligné que dans certaines zones, le M23 cohabitait avec les forces de l'EAC. C'est une situation intolérable pour Kinshasa qu'il faudra régler rapidement. Kinshasa qui d'ailleurs ne fait pas non plus une volte-face sur l'EAC. Le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a déclaré à nos confrères de France 24 mercredi soir que la feuille de route de Luanda qui prévoyait le cessez-le-feu, le retrait du M23, son cantonnement, son désarmement n'avait tout simplement pas été respecté. Rappelons aussi à la communauté internationale à ses engagements, la France avait notamment à l'époque évoqué des sanctions en cas de non-respect.
Effectivement. Une dernière question, Honoré.
Oui, monsieur Juan, j'ai une grande question sur la dernière de mes questions. Je souhaite savoir qu'en est-il de la SADC qui devrait déployer enfin ses forces à l'aide de l'ARC.
Oui, le réseau téléphone n'est pas très bon avec Lubumbashi. C'est vrai que la SADC, on s'en souvient, Paulina Azidi, je crois que même vous étiez venu dans cette émission répondre à des questions. La SADC, la Communauté de développement de l'Afrique australe, s'était engagée récemment à déployer des troupes dans l'est du pays. Le ministre congolais des Affaires étrangères avait même dit les premiers soldats devraient arriver mi-juin. Quid de cette force?
Alors, la RDC mise toujours sur le déploiement des forces de la SADC. On attend très prochainement la réunion des chefs d'état-major de cette région. Et c'est cette réunion qui vont fixer les contours de cette force. On en saura à ce moment-là un peu plus. Mais pour l'instant, c'est impossible de vous en dire plus. Un spécialiste de la zone mettait quand même en doute la date du 15 juin, rappelant que déployer une force régionale, ça prenait du temps. Et il me rappelait que la SADC n'a pas de force en attente, c'est-à-dire de force qui n'est pas déployée, mais qui est prête à intervenir, mobilisable à tout moment. Là, il faut poser les bases. On l'a vu pour l'EAC, entre la décision d'une force et son déploiement total, il y a eu pratiquement une année. L'idée a émergé en avril 2022 lors d'un sommet à Nairobi. Et les dernières troupes sont arrivées, je vous le rappelais, il y a moins de 3 mois.
Et si vous souhaitez réagir justement à cette force régionale de l'EAC qui voit donc son mandat reconduit, prolongé, n'hésitez pas, la libre antenne, c'est dans moins d'une demi-heure. Honoré, bonne journée à Lubumbashi et un grand merci à Pauline Azidi du service Afrique de RFI. Il est 10h17 à Paris, Antoine Grenier du service des sports me rejoint, soyez le bienvenu, installez-vous Antoine.
Merci Rouen, merci pour l'accueil.
On va parler de Karim Benzema, tiens donc.
Et pourquoi pas.
Pourquoi pas. Armand, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Antoine Grenier et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Bienvenue, quelles sont vos questions sur Karim Benzema?
D'accord, Karim Benzema pourrait quitter le Real Madrid pour l'Arabie Saoudite. Alors pourquoi pense-t-il quitter le Real alors qu'il souhaitait y terminer sa carrière? Sans oublier que la clause du Ballon d'Or ne l'oblige-t-elle pas à rester jusqu'en 2024?
Alors Antoine Grenier, Karim Benzema est-il sur le départ?
Il a démenti. Plutôt mollement d'ailleurs, l'information hier au micro de Pierre Chaperon, disant que pour l'instant, ce n'était pas encore le moment de parler d'avenir, qu'il était au Real Madrid. Et c'est le cas, puisqu'il y est au moins jusqu'à la fin de la saison, et donc dimanche, le dernier match de la dernière journée de championnat. Mais effectivement, il réfléchit, parce qu'il y a une très très belle offre qui est arrivé d'Arabie Saoudite, 200 millions d'euros pour $200 millions pour 2 saisons là-bas.
Ce qui fait 100 millions de dollars net par an.
Alors, on ne s'inquiétait pas forcément pour ses finances à Karim Benzema, parce qu'il touche entre 15 et 20 millions de dollars, d'euros au Real Madrid, donc il n'était pas forcément à plaindre. Mais c'est un joueur qui a 35 ans, qui est plus sur la fin de sa carrière que sur le début, qui a tout gagné avec le Real Madrid, qui est là-bas depuis 14 ans, une vingtaine, 25 trophées. Il a presque fait le tour, on peut le dire. Il a gagné le Ballon d'Or, donc c'est difficile pour lui maintenant d'aller chercher autre chose que ce qu'il a déjà gagné.
Alors, Armand a eu raison de rappeler que Benzema avait dit « je prendrai ma retraite au Real Madrid ». Et il l'a dit il y a seulement quelques mois, ma mémoire est bonne, c'était le 18 octobre dernier.
Absolument.
Que s'est-il passé depuis pour se dire « je prépare mes valises, on quitte Madrid et on part en Arabie Saoudite ».
Depuis, il y a une saison qui sportivement est un peu moyenne, en tout cas pas à la hauteur de celle qu'il a jouée la saison précédente. Est-ce que c'est une forme d'usure? Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est la décompensation du Ballon d'Or qui est quand même le Graal quand on est un footballeur? Il y avait aussi le départ de Cristiano Ronaldo pour l'Arabie Saoudite, donc l'attractivité du championnat, et puis cette offre-là saoudienne qui est arrivée et qui le fait réfléchir.
Et quid de la clause du Ballon d'Or dont parlait Armand?
Effectivement, il y avait une clause dans son contrat dont parlent les médias espagnols qui faisait que s'il remportait le Ballon d'Or, automatiquement son contrat allait jusqu'en 2024. Mais ça, c'était plus pour protéger Karim Benzema que le Real Madrid. C'est-à-dire que souvent, le Real n'aime pas trop prolonger des joueurs à partir de 33 ans. Karim Benzema voulait effectivement finir au Real Madrid au moment où il a négocié son nouveau contrat, et le Real lui offrait cette possibilité-là. Mais il n'est pas pieds et poings liés, c'est-à-dire que s'il y a une belle offre qui arrive d'Arabie Saoudite, que le joueur a envie de partir, et qu'en plus le Real peut toucher de l'argent sur un éventuel transfert, tout le monde serait à peu près gagnant. Après, en fait, Karim Benzema, il est totalement maître de son destin dans ce dossier-là.
Autre question peut-être, Armand?
Oui, Juan. Après Ronaldo et Messi, Benzema devient la nouvelle star cible de l'Arabie Saoudite. Alors, je suis tenté de savoir pourquoi le pays s'investit autant dans le football.
Et pas que dans le football.
Dans le sport en général.
Dans le sport en général, parce qu'il y a un plan très très large du pays depuis plusieurs années pour accroître sa notoriété, sa notabilité au plan international. Et ça passe par une forme de diplomatie du sport, qui est la même d'ailleurs chez le voisin qatarien, et qui peut expliquer aussi pourquoi l'Arabie Saoudite...
Une sorte de concurrence entre le Qatar et l'Arabie Saoudite.
Même si les relations diplomatiques entre les deux pays s'améliorent, il y a quand même une compétition entre les deux. Et on voit l'Arabie Saoudite qui accueille le Paris-Dakar, qui accueille désormais son propre Grand Prix de Formule 1, oui. Qui a également accueilli des matchs délocalisés de Supercoupe d'Espagne en 2020, de Supercoupe d'Italie cette année. Le Paris Saint-Germain aussi est venu jouer en Arabie Saoudite.
Les Jeux d'hiver d'Asie ?
Les Jeux asiatiques d'hiver.
Voilà, les Jeux asiatiques d'hiver.
Pour 2026, qui ont fait énormément parler. Il y a les bons résultats aussi de l'équipe nationale à la dernière Coupe du Monde, où ils ont battu l'Argentine quand même, les Saoudiens, donc c'est pas rien. Cette diplomatie du sport, elle est très importante pour le palais royal saoudien. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite voudrait, alors c'est pas encore officiellement, le dossier n'est pas déposé, mais la Coupe du Monde 2030, l'Arabie Saoudite la veut, et la veut très fort. Et en investissant 20 milliards de dollars dans son championnat national, l'Arabie Saoudite espère poser des jalons pour pouvoir attirer le football international.
20 milliards de dollars d'investissement rien que pour le championnat de football.
Exactement, pour développer le football sur place et faire venir des joueurs comme Cristiano Ronaldo, éventuellement Lionel Messi, parce qu'avoir les deux dans le même championnat, c'est un rêve.
On parle même de Luka Modric.
Exactement, oui. Luka Modric aussi, mais visiblement, lui aurait dit non. Mais ça montre que les Saoudiens visent tout un tas de stars internationales pour les faire venir dans leur pays.
On va suivre le mercato cette année.
Exactement, ça promet d'être très intéressant.
Armand, on a répondu à vos questions ?
Oui, Juan, merci.
Et bonne journée donc à Libreville, au Gabon. À bientôt, Antoine Grenier, 10h22 à Paris. Marius, bonjour.
Bonjour Monsieur Wan, bonjour à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Dans la capitale économique ivoirienne à Abidjan, des questions sur une nouvelle loi en Ouganda qui introduit la notion d'homosexualité aggravée.
Oui, c'est cela. Le président ougandais Yoweri Museveni a promulgué une loi anti-LGBT prévoyant la peine capitale pour les relations homosexuelles. Alors qu'il y a 2 mois de cela, Monsieur Wan, il avait accepté d'alléger les peines contre l'homosexualité. Je voudrais savoir pourquoi est-il revenu sur sa décision.
Pauline Le Troquet, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI. Effectivement, en mars dernier, lorsque ce projet de loi a été adopté, cela avait suscité un tollé international. Du coup, le président Museveni avait demandé aux parlementaires de réexaminer le texte.
Oui, exactement. Mais en réalité, le président Museveni ne comptait pas vraiment alléger les peines contre l'homosexualité. C'est bien le contenu de la loi qu'il avait demandé aux législateurs de revoir, mais seulement à la marge. Alors, dans la version définitivement promulguée lundi, plus question de criminaliser le seul fait d'être homosexuel. Seul le rapport sexuel entre personnes LGBT est considéré comme un crime. Plus question non plus d'obliger les Ougandais à dénoncer les pratiques d'autrui en voisin ou un proche. Cette disposition posait pour le chef de l'État un vrai défi constitutionnel. Oui.
Reste que la loi anti-homosexuelle, c'est désormais son nom officiel. Cette loi prévoit toujours de lourdes peines contre les personnes LGBT. Pourtant, des peines pouvant aller jusqu'à la peine capitale, comme le rappelait Marius.
Oui, jusqu'alors, la peine la plus lourde était la prison à vie. Et désormais, donc, en cas de ce que le texte appelle la récidive, il s'agit d'un délit d'homosexualité aggravée, passible donc de la peine de mort, même si, en pratique, celle-ci n'est plus appliquée dans le pays depuis des années. À noter que cet article a été maintenu par les parlementaires contre l'avis du président Yoweri Museveni.
D'accord. Bon, ça a suscité en tout cas de très vives réactions, un tollé international. Marius, vous aviez justement des questions sur de probables possibles sanctions, c'est ça ?
Oui, oui. Face à l'indignation de la communauté internationale, quelles sanctions risquent l'Ouganda ?
Alors, il y a eu des réactions essentiellement occidentales.
Oui, c'est ça. Alors, tous les aspects de la relation entre les États-Unis et l'Ouganda seront réexaminés. C'est la promesse faite par le président des États-Unis, Joe Biden. Donc, concrètement, ça pourrait prendre la forme de restrictions à l'entrée sur le sol américain pour toute personne associée à des violations de droits de l'homme. Josep Borrell, lui aussi, agite la menace de sanctions pour le chef de la diplomatie européenne. Si Kampala ne remplit pas, je cite, son obligation de protéger tous ses citoyens, eh bien, dit-il, ses relations avec les partenaires internationaux s'en trouveront compromises, sans plus donner de détails sur des mesures concrètes. On sait en revanche que par le passé, plusieurs pays européens, le Danemark, la Suède, la Norvège notamment, n'avaient pas hésité à geler en partie leur aide bilatérale à Kampala. C'était en 2014, alors que l'Ouganda étudiait un premier projet de loi réprimant l'homosexualité. Il avait finalement été abandonné.
Et malgré ces menaces de sanctions internationales, Kampala campe sur ses positions.
Personne ne nous fera bouger, c'est la réponse du président Museveni après la série de réactions occidentales. Mercredi, lors de sa première prise de parole, après la promulgation de la loi, il s'est exprimé devant 400 parlementaires de son parti. Il les a félicités, les a encouragés à rester fermes et d'ajouter que, je cite, « l'homosexualité est une question grave qui concerne la race humaine ». Une semaine plus tôt déjà, la présidente du Parlement avait pour sa part déclaré « l'Occident ne viendra pas gouverner l'Ouganda ». Pas question donc de reculer, quitte à se tourner vers de nouveaux partenaires économiques dans le monde arabe. Cette piste a d'ores et déjà été ouvertement envisagée par l'un des députés promoteurs de la loi.
Marius, a-t-on répondu à vos questions? Êtes-vous satisfait?
Oui, très satisfait, monsieur Juan, merci à toute l'équipe.
Et bonne journée donc à Abidjan, continuez à nous écouter sur place. Pauline Le Troquet, à bientôt,
merci.
Journaliste au service Afrique de RFI. On va parler du climat politique en République démocratique du Congo. Junior, vous avez des questions, bonjour.
Bonjour monsieur Juan et bonjour à toute l'équipe de la presse et l'actualité.
Vous êtes à Kinshasa, nous vous écoutons.
Oui, M. Juan, Salomon Kalonda, le bras droit de M. Katumbi, a été arrêté le mardi dernier à l'aéroport international d'Ngili. Il s'agit d'un proche de Katumbi d'être arrêté par les autorités congolaises en 2 semaines. Mm. Alors, comment expliquer que son entourage soit particulièrement visé plutôt que celui d'un autre opposant?
Alors, vous avez été plusieurs, d'ailleurs, à nous appeler pour réagir à l'arrestation de Salomo Kalonda, conseiller spécial de Moïse Katumbi, qui est, rappelons-le, candidat à la présidentielle de décembre. Bonjour, Christian Moleka.
Bonjour.
Vous êtes analyste politique, coordinateur national de la DIPOL, la dynamique des politologues de la RDC. D'abord, sait-on pourquoi Salomo Kalonda a-t-il été interpellé mardi à l'aéroport de Kinshasa?
Jusque-là, les raisons profondes n'ont pas été avancées, si ce n'est que des questions sécuritaires, qu'il y aurait des questions sécuritaires liées à sa personne. Et pour notre information plus complète. Peut-être que dans les jours à venir, oui, le gouvernement pourra donner des éléments d'information plus profondes. Alors, on sait simplement que c'est lié aux événements du 20 mai, donc à la marche de l'opposition, et depuis aux tensions qui tournent autour de ces événements-là.
Et Junior a raison de rappeler que ce n'est pas la première fois qu'un proche, un collaborateur de Moïse Katumbi est arrêté.
Oui, vraisemblablement, Moïse semble la menace la plus sérieuse pour le régime dans la perspective des élections, parce qu'il y a quand même 4 opposants qui ont marché le 20 mai dernier. Mais de ces 4, pour le régime actuel, Moïse Katumbi semble peut-être la menace la plus sérieuse. Il est celui qui peut mobiliser le plus grand capital financier, mais également le plus grand réseau de lobbying à l'international comme en interne. Et donc, il constitue une menace pour le pouvoir et véritablement, une stratégie a été mise en place pour le contrer. Et donc, c'est dans son rang qu'on trouve les plus grandes arrestations jusque-là. Qu'il s'agisse de l'honorable Daniel Safou qui a disparu, qu'on ne trouve pas, ou de l'honorable Mike Mukebai qui a été arrêté, et donc récemment également Salomon Escadela.
Ouais,
tout cela s'inscrit dans un environnement qui fait beaucoup de crispations depuis les événements de mai et beaucoup de tensions politiques.
Les tensions entre le pouvoir et l'opposition, et notamment entre le pouvoir et le camp de Moïse Katumbi, candidat à l'élection présidentielle de décembre prochain. Merci Christian Moleka, pour cette analyse rapide, mais explicite, et qui ne manquera pas de faire réagir nos auditeurs, je pense, dans la deuxième partie, puisque plusieurs d'entre vous nous ont contactés ces derniers jours pour commenter ce sujet. Restez avec nous.